Commençons ce matin une nouvelle série, hein, nouvelle angle oblige, une nouvelle série que je vous propose pour les semaines à venir, en tout cas pour un certain nombre de semaines à venir, de lire ensemble l'épître de Paul aux Galates. Alors nous allons lire eh bien, les premiers versets de cette épître de Paul aux Galates. Ceci est la parole de Dieu, Paul qui a écrit ce texte sous l'inspiration du Saint-Esprit. Galates, chapitre 1er, les versets 1 à 5. Galates, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Seigneur, nous nous plaçons à l'écoute de ta parole. Nous voulons nous asseoir à tes pieds et t'écouter, toi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, en l'Esprit Saint, nous parle par la parole. Seigneur, nous avons tellement besoin d'être nourris au plus profond de notre âme. Nos pensées sont tellement bombardées par les médias, par nos conversations et par nos propres pensées que nous pouvons si facilement nous éloigner de toi, faute de référence. Seigneur, puisse ta parole ce matin et puisse ta parole à toute occasion où nous l'ouvrons, où nous la lisons, où nous la méditons, où nous l'écoutons. Puisse ta parole, Seigneur, affermir nos cœurs, transformer nos pensées et ainsi transformer nos vies. Seigneur, puissions-nous être de plus en plus au bénéfice de ta grâce et de ta paix, et de plus en plus voir combien, alors que tu nous places dans ce monde, alors que tu nous places les uns et les autres avec une vocation dans ce monde, que ta parole nous donne de réaliser à quel point nous ne pensons pas comme ce monde, nous ne vivons pas comme ce monde, nous nous différencions de ce monde. Et grâce à l'Évangile, tu donnes à ton Église d'être une véritable alternative au monde. Alors Seigneur, parle, tes serviteurs, tes servantes, écoute. Seigneur, que ta parole qui vient de toi ne retourne pas à toi sans avoir fécondé la terre, comme la pluie qui tombe et qui retourne, sans avoir transformé nos pensées et nos cœurs. Ô Seigneur, nous voulons tous ici présents, nous placer à l'écoute de ta parole, pour que ta parole germe en nous et porte du fruit. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, nos vies passent, mais ta parole demeure éternellement. Parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors ce matin, je vais m'adresser à un public particulier. Ce que je vais dire ici ne dirait rien aux trois quarts du monde. Mais si je vous dis, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui vient à votre esprit? C'est tout? Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, et vous pensez?
Astérix.
Astérix, oui, merci. Ah, il y en a qui lisent de la bonne littérature. Vous n'avez jamais lu Astérix? Si vous êtes étranger, je vous recommande vivement cette lecture. Elle a l'air enfantine, mais elle est très profonde. Et il y a beaucoup de choses à nous faire découvrir sur la France ici. Alors, pour les plus anciens parmi nous, sur les bancs d'école, souvenons-nous, lorsqu'on faisait les cours d'histoire de France, nous commencions par nos ancêtres, les Gaulois. C'est terrible, on a tous entendu les scandales de comment les manuels d'histoire allaient dans les colonies. Et qu'on devait apprendre aux enfants des colonies que nos ancêtres étaient les Gaulois. Ils avaient un problème de couleur de peau dans l'histoire. Hein. Mais en tout cas, nous avons tous un peu grandi avec cela. Eh bien oui, oh, je ne sais pas combien parmi nous revendiquons une vraie ascendance celtique gauloise. Mais pourquoi je dis tout ceci? Eh bien parce que, figurez-vous que les Galates étaient des Celtes gaulois. C'était 3 siècles avant Jésus-Christ, il y a eu des invasions Et donc, ce sont bel et bien des Gaulois français 7. Alors, Calvin pense que c'était des Celtes belges. Mais bon, hein, si on lit Astérix aussi, il y a des liens là, hein, dans tout ça là. Alors, désolé, Gaëtan, c'était pas des Celtes gallois, hein, apparemment. Mais en tout cas, il semblerait donc qu'il y avait une colonie, une invasion de Gaulois, de Celtes gaulois, qui ont envahi ou qui se sont installés dans le centre de l'Asie mineure ici. Et donc, à ne pas confondre les Galates et la Galatie. La Galatie est un territoire plus large, un petit peu comme, on pourrait parler des îles britanniques et puis de l'Angleterre. Hein, c'est à ne pas confondre, n'est-ce pas? Et encore moins le Pays de Galles, l'Écosse. Mais voilà, les Galates seraient des descendants gaulois. Et la Galatie est un territoire plus élargi, on y reviendra à l'occasion, qui était donc une région administrative sous l'Empire romain. Mais en attendant, tout ceci, bon ben voilà, c'est une petite page d'histoire. Je viens d'ailleurs en rajouter une petite dose ici. Mais évidemment, voilà, j'espère que ça attire notre attention, parce que quand on sait qu'il y a un livre dans la Bible dont les racines seraient gauloises, quand même, ça devrait un tout petit peu nous intéresser. Vous savez, des fois, on n'a rien à voir avec quelque chose, mais parce qu'on sait qu'on a un lien sanguin, on se dit, bah tiens, c'est un petit peu, on se sent un petit peu dedans ici. Mais avant d'aller un cran plus loin, eh bien évidemment, même si on n'est pas d'origine celtoise, gauloise, directe ici, on est quand même bel et bien français. Et quand on est bel et bien français, eh bien ça se voit. Par exemple, je suis tombé là-dessus hier. Par exemple, voici l'histoire d'un médecin qui veut vacciner du Covid un Anglais, un Français, un Allemand et un Américain. Alors il dit à l'Anglais, c'est par ici votre vaccin, s'il vous plaît. Et l'Anglais dit, je ne veux pas. Allez, un gentleman se ferait vacciner. Et l'Anglais se fait vacciner. Le médecin s'adresse à l'Allemand. Maintenant, c'est ton tour. Non, merci. C'est un ordre. Et l'Allemand s'est fait vacciner. Bon, c'est très cliché tout ça. Hein. Mais bon, l'Allemand s'est fait vacciner. Le médecin s'adresse à l'Américain. Maintenant, c'est à votre tour. En aucun cas. Mais vous savez, votre voisin lui s'est fait vacciner. Et l'Américain s'est fait vacciner. Et le médecin s'adresse au Français. À vous maintenant. Je ne me ferai pas vacciner. Allez, un gentleman se ferait vacciner. En aucune façon. C'est un ordre. Ah non. Vous savez, c'est votre voisin qui s'est fait vacciner. Je m'en fiche complètement. Écoutez, qui êtes-vous exactement? Un Français. Ah, un Français. Ben, de toute façon, vous n'avez pas droit au vaccin. Comment ça, je n'y ai pas droit? Et le Français se fait vacciner. Voilà, quelques petites rubriques. Alors, encore une fois, évidemment, ne nous éloignons pas trop de cet épître aux Galates, encore une fois. J'espère que ça suscite en nous quand même un tout petit intérêt, parce qu'il n'y aura pas plus de Gaulois que ça dans le reste de l'épître ici. Bien que, en avançant dans le livre, on y retrouvera peut-être certains éléments bien gaulois, bien français. Mais en attendant, j'espère juste que c'est pour nous l'occasion de se dire, après tout, il y a peut-être du sang de nos ancêtres dans les veines de ce public, alors prêtons-y attention. En tout cas, je ne sais pas vous, mais j'ai peu entendu dans ma vie prêcher le livre des Galates. J'ai souvent entendu des extraits des Galates, mais j'ai rarement vu, en tout cas, je n'ai pas connaissance et souvenir d'une église qui déjà prêche les livres dans leur totalité, peu d'églises le font, mais qui ait prêché le livre des Galates. Ça fait partie des livres, on prêche volontiers les Romains, les Corinthiens, les Éphésiens, les Philippiens, mais Galates, je n'ai pas trop entendu. Si vous avez entendu, ça m'intéresse de savoir ce qui en a été dit, mais en tout cas, il y a là une série que je vous propose de lire dans un livre qui nous est peut-être pas aussi familier, à part quelques versets clés ici et là. Mais donc, en tout cas en France, je n'ai pas souvent entendu prêcher ce livre, et peut-être parce que c'est gaulois, hein, qui sait. Mais en tout cas, c'est une lettre qui, comme tout le reste de la Bible, c'est une lettre qui a une place fondamentale et qui est là parce que le Saint-Esprit a donné à Paul d'y dire quelque chose d'absolument fondamental. Et j'espère que nous allons pouvoir y trouver dans le cheminement de cette lettre. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on y avance, vous allez voir que je crois vraiment que dans notre contexte français, alors pas parce qu'on est gaulois en tant que tel, mais je crois que dans notre contexte français, il y aura un certain nombre de sujets évoqués dans cette épître qui sont tout à fait fondamentaux. Et j'espère qu'ensemble, on va cheminer à découvrir ces sujets et à peut-être asseoir notre foi, notre confession de foi, asseoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons, en avançant doucement mais sûrement dans cet épître de Paul aux Galates. En tout cas, plus j'avance dans mon ministère, plus je vois l'énorme nécessité d'aborder les thèmes qui seront ici. Alors, il est intéressant de voir que certains commentateurs dans l'histoire de l'Église n'ont pas vu l'intérêt de s'arrêter à ce point sur la problématique ici. Jean Calvin, d'ailleurs, cite parmi ceux dans l'histoire qui n'ont pas prêté, qui n'ont pas vu l'importance, il parle de Jérôme, il parle d'Origène, qui n'ont pas compris la démarche que Paul faisait de vouloir insister. Mais justement, le problème que Paul adresse dépasse de loin une affaire de cérémonie ou de pratique traditionnelle ou de routine religieuse. Paul s'attaque à une vraie question de fond et une question absolument fondamentale, et il attaque parce que il y aurait dans l'église de Galate, dans les églises de la Galatie, il y aurait un autre évangile qui circulerait, un autre évangile que celui que Paul a posé. Je lis par exemple le verset prochain, celui de la prochaine fois, mais simplement le verset 6 du premier chapitre. Paul rentre dans la matière en disant: je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Alors vous l'aurez compris, on va parler d'évangile dans cette épître. Mais on ne va pas parler d'évangile dans le sens simplement, peut-être commun du terme, de dire « Ah, il faut prêcher l'évangile pour que des personnes viennent au Seigneur ». Non, on va parler de l'évangile dans ce qu'il implique de très profondément ancré dans nos pensées et dans nos vies. Et je pense qu'on va voir, en tout cas, j'espère qu'on va voir à quel point il y a peut-être un certain nombre de petits travers, de choses sur lesquelles on a besoin de revenir. Mais en tout cas, avant d'entrer pleinement dans la thématique du livre des Galates, bien qu'on va le faire, eh bien, je vous invite ce matin à rentrer dans cette introduction. Vous savez, les introductions, souvent, on les lit vite. Souvent, on se dit, allez hop, on passe, voilà, sur des formules de politesse, c'est gentil. Et puis, on passe tout de suite, par exemple, là, au verset 6. Mais arrêtons-nous sur ces versets 1 à 5, parce que je ne crois pas que Paul fasse des petites formules rapides, histoire de dire, on commence maintenant. Je crois que ces mots ont du poids. Et ainsi donc, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors ce matin, je vous propose de nous arrêter sur deux aspects, deux parties de cette introduction. On aurait pu en faire plus, mais je vous propose d'arrêter sur deux parties qui me paraissent essentielles. La première, ce sont les premiers mots que Paul emploie dans cette lettre. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, mis à part la question des Gaulois, sur laquelle je ne reviens pas maintenant, Paul, on peut dire, a visité un certain nombre de ces chrétiens à qui il écrit. C'est que ceux qui reçoivent ses écrits connaissent Paul, en tout cas certains d'entre eux. Nous en avons un aperçu dans le livre des Actes, on y fera référence occasionnellement, mais si vous, dans votre lecture personnelle, vous voulez y revenir, parce que je sens qu'il y en a qui vont vouloir dire « Ah, ben maintenant, on va lire l'Épître aux Galates, on va voir ce qu'il va nous dire là », vous pouvez lire en parallèle les chapitres 13, 14 et 15 des Actes des Apôtres, puisqu'il s'agit là d'une des voyages que l'apôtre Paul va faire. Et nous voyons au chapitre 13, comme fait souvent Paul, pour ne pas dire comme fait presque toujours Paul, il commence son ministère en allant dans les synagogues. Et il y fait lecture de la loi, et là, il est souvent invité à prêcher en tant que docteur de la loi. Et donc, il va tout d'abord parler à des juifs dans les synagogues et leur parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, assez rapidement, il va se tourner vers les païens. Et là, on voit une marque assez forte où Paul va devenir l'apôtre des païens, l'apôtre des nations. Et on voit même qu'au chapitre 14, il a un impact particulier, parce qu'il arrive, vous pouvez relire ceci, mais il arrive dans un endroit, il fait une guérison, et les gens le prennent pour des dieux tombés du ciel. Et donc, il y a une problématique sérieuse ici, parce qu'il commence à venir offrir des sacrifices, et donc Paul doit résister à cela. Mais ce qui est très intéressant à relever, c'est que les chapitres 13 et 14 nous mènent au chapitre 15, et le chapitre 15, juste pour référence ici, c'est le premier synode de l'Église. Premier synode de l'histoire de l'Église, et c'est là que, quand on fait les classes de membres ici, je parle de pourquoi nos églises fonctionnent dans un système que l'on appelle presbytéro-synodal. Eh bien, presbytéro, c'est le fait que ce sont les églises, nos églises sont régies par un conseil d'anciens, mais les églises sont liées entre elles par une dimension synodale. C'est qu'on se retrouve entre églises pour discuter de faits d'actualité et de l'avenir et de certains points de doctrine. Et bien là, c'est le cas, Paul, devant la situation qu'on va évoquer justement dans le livre des Galates, et bien devant cette situation, première conférence synodale, les églises se retrouvent, les responsables de ces églises se retrouvent pour évoquer une problématique, pour discuter de la problématique et entre autres celle de faire, que faire des païens qui se convertissent et est-ce qu'il faut les plier à certaines règles judaïsantes ou pas. Et tout ça sont des sujets sur lesquels on reviendra. Mais donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Donc Paul n'est pas un inconnu, en tout cas pas un inconnu de tous. Mais après son départ, il y aurait eu des infiltrations dans l'Église et des infiltrations de responsables, de personnes qui vont influencer l'Église dans sa pensée et qui va donner à l'Église de dévier de sa route. Et donc Paul, qui a parlé dans un premier temps, formé les responsables et les membres fidèles de cette Église, eh bien va revenir vers eux pour dire « Mais est-ce que vous avez déjà oublié toutes les fondations que je vous ai données et que j'ai posées en vous ?» Donc là, Paul, quand il parle à ces personnes, il n'est pas inconnu de tous. Maintenant, il est clair qu'il y en a d'autres qui ne le connaissent pas, et il y en a surtout d'autres qui vont être opposés au ministère de Paul, mais Paul ici évoque ceux qui l'ont connu ici. Et notons que dès le départ, alors là on peut dire sans mettre aucune pincette, que fait Paul ? Paul pose tout de suite le fait qu'il est un apôtre. Paul, apôtre. Voilà, c'est posé, c'est clair. Paul, apôtre, il se présente donc en tant qu'apôtre et il insiste, et c'est le premier élément de remarque que nous pourrions faire dans cet épître, c'est qu'il se présente comme apôtre et donc nous pouvons, alors que nous notons que dès le départ il se présente comme apôtre, nous pouvons noter qu'il insiste sur l'envoyeur. Hein, l'apôtre, c'est un envoyé, et il s'adresse à l'envoyeur. Et là, c'est une première mise au point qui est très importante que Paul fait par rapport à la problématique que connaissent les Galates. Il fait une première mise au point parce qu'il est en effet apôtre, et j'ai envie de dire apôtre à majuscule. Il porte ce titre d'apôtre parce que c'est une vocation très spécifique. En fait, Paul est en train de dire ici que n'est pas apôtre qui veut. Alors parfois, dans certains milieux d'église, on entend, ça m'a surpris la première fois quand j'étais à Bordeaux, je visite un pasteur qui arrivait d'un certain coin du monde et qui démarrait une église sans que personne le sache. Et j'étais informé de sa venue parce que son église était à quelques centaines de mètres de la nôtre. J'ai dit, ça serait quand même bien. En tout cas, moi, quand je viens de démarrer une église, j'essaye de m'entretenir avec les églises d'à côté, au moins leur expliquer la démarche. Lui, il était déjà là. Je vais le voir, on a une discussion fort sympathique, et il me donne sa carte de visite. Monsieur apôtre. J'ai dit, ah bon, d'accord, c'est posé. C'est pas de ça dont Paul parle ici. Paul ici parle d'apôtre. Alors oui, il y en a qui disent, mais ça veut dire envoyer, donc on est des apôtres, etc. Oui, en nom commun, si vous voulez, mais il y a un nom propre, là, enfin, presque propre. N'est pas apôtre qui veut. En fait, ce sur quoi Paul insiste, et à juste titre, c'est que les apôtres sont tous, ont un point commun, c'est que tous sont appelés spécifiquement par le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, ceux qui sont là, sont appelés par le Seigneur lui-même. Les douze sont appelés par Jésus. Souvenez-vous, quand il y a un moment, c'était des disciples, ils deviennent des apôtres. Il y a un moment où il les nomme apôtres, d'ailleurs je reviendrai dans un instant sur ce récit ici. On voit également que lorsqu'il est question dans le début des actes des apôtres de remplacer Judas, il faut un douzième. Souvenez, il va y avoir des critères et puis à un moment il faut décider, eh bien ce n'est pas une élection qui a lieu. C'est un tirage au sort. Alors ça peut surprendre ce tirage au sort, hein. Moi, ce n'est pas dans ma pratique hein, de faire un tirage au sort pour connaître la volonté de Dieu. Mais ils le font et certains commentateurs disent ben, ils font précisément un tirage au sort pour bien montrer que c'est Dieu qui décide. Que ce n'est pas les hommes qui font une évaluation qui, selon des critères humains, était ici. Et Paul, évidemment, Paul va revendiquer son apostolat parce que Paul a été appelé, ça s'est entendu, ça s'est vu. Il y avait quelque chose d'une manifestation extraordinaire où le Christ ressuscité sur le chemin de Damas interpelle Paul d'une façon très claire et solennelle et fait de Paul son apôtre. Et donc Paul ici, eh bien, rappelle ces choses. Et d'ailleurs, Paul, au passage, dira être le dernier des apôtres. Alors, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais en tout cas, la thèse du professeur Peter Jones, alors qu'il était à la faculté Jean Calvin dans ses débuts, il a fait toute une thèse là-dessus pour montrer, enfin, ce n'était pas sa thèse de doctorat, mais il a fait une thèse pour démontrer que lorsque Paul dit qu'il est le dernier, l'étymologie, les mots employés montrent qu'il est en effet le dernier à pouvoir porter ce titre. Il est le dernier à être appelé à la vocation spécifique d'apôtre de l'Église de Jésus-Christ dans cette Église primitive ici. Eh bien, nous voyons là que Paul, apôtre, et il précise, non de la part des hommes, ce n'est pas moi qui l'ai décidé de moi-même, c'est personne d'autre parmi les hommes, aussi grandiose qu'ils puissent être, qui l'ont décidé, c'est Jésus-Christ qui a posé sur moi cette vocation. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai peut-être pas forcément même voulu, mais voilà, j'ai été appointé à cela, appelé à cela, et donc je suis apôtre. Et c'est en tant qu'apôtre de Jésus-Christ que je m'adresse à vous, les chrétiennes et les chrétiens de Galate. Et Paul a fait une distinction, parce que par exemple, ça sera une autre dynamique lorsque l'on parle de la vocation d'ancien, de pasteur, ou même d'évêque. En effet, les vocations d'ancien, de pasteur ou d'évêque, on peut même dire de diacre dans un sens ici, eux, c'est une autre affaire. C'est une reconnaissance, il y a dans l'appel une vocation à servir le Seigneur dans son Église, avec ce que l'on appellerait une double vocation, une vocation intérieure et une reconnaissance extérieure. En effet, il dira que ceux qui aspirent à la charge d'évêque ou d'ancien, il y a donc une aspiration, c'est-à-dire qu'il y aura là des personnes qui vont se dire « ben voilà, je ressens cet appel ». Mais ça ne suffit pas. Il faut que cet appel soit confirmé par l'Assemblée des croyants. Et éventuellement ici, il peut y avoir en effet une élection. On ne va pas faire un tirage au sort pour nommer des anciens, par exemple. Mais il y a là un appel à un discernement extérieur, à de la sagesse pour mettre en place des personnes responsables. Par exemple, d'ailleurs, dans l'exemple de la Galatie même, dans les Actes chapitre 14, eh bien voici ce qu'il nous a dit. « Après avoir évangélisé cette ville, et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. » Et on voit là que l'idée de faire nommer veut dire qu'il y a un discernement qu'ils exercent. Il y a un travail qui est fait en amont pour voir, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. On voit également Paul, toujours Paul, qui s'adresse à Timothée en lui disant « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et oui, dans la dynamique ici, « confie-le à des hommes fidèles », ça demande un exercice de discernement, de dire « Qui sont ces hommes fidèles ? En quoi sont-ils fidèles ? Sont-ils capables d'enseigner, etc. là ? » Eh bien là, on voit un travail de discernement qui va être fait pour pouvoir nommer des anciens, des pasteurs ou des évêques. Encore un texte également dans Tite cette fois-ci. Hein. « Je te laisse en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville et s'il s'y trouve quelque homme sans reproche, mari d'une seule femme. » Et là, il y a une longue liste encore qui, une fois encore, fait appel à du discernement de façon à savoir qui peut prendre en main l'Église de Jésus-Christ. Ainsi, les pasteurs, les anciens, les évêques, eh bien, vont exercer leur ministère, mais sur un fondement. Qui est le fondement apostolique? Qui est le fondement des apôtres? Les apôtres, eux, fondent. Eux ont pour vocation de poser ces fondements sur lesquels, ensuite, les pasteurs, les évêques, les anciens pourront s'appuyer ici. Et donc, les apôtres fondent parce qu'ils ont une vocation venant de Dieu lui-même. Et Paul ne fait pas toujours ça, mais là, on sent que c'est une nécessité, dès les premiers mots, Paul, apôtre, et non pas par des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, pour rappeler qu'il est là pour revenir sur la fondation. Et pourquoi doit-il revenir sur la fondation? Eh bien, précisément parce que certains sont venus poser une autre fondation. Et cette église, à peine démarrée, allait partir complètement à la dérive parce que l'évangile y était transformé et n'était plus l'évangile. Donc Paul vient avec sa pleine autorité apostolique, avec son rôle et son chapeau d'apôtre, si je peux m'exprimer ainsi, sa casquette d'apôtre, sa vocation d'apôtre, parce que l'enjeu est énorme et qu'il s'agit de remettre cette église sur les rails. Donc Paul se présente clairement comme le fondateur de l'église, sous la pleine autorité de Dieu. Et c'est pas peu dire. Pour Paul, c'est important d'y revenir. Et donc, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. C'est son premier point. Et le deuxième point qui me paraîtrait intéressant de relever ce matin, parmi d'autres, mais c'est cette formule qui est dite, que la grâce et la paix vous soient données. Alors, bon voilà, simple formule de politesse, simple, voilà, c'est bien de le mettre. Donc, on le met. Où y a-t-il plus? Je me suis amusé, si on peut dire ainsi, de relire chaque introduction de tous les épîtres du Nouveau Testament. Et toutes les lettres venant de Paul ou de Pierre commencent avec cette formule. Les deux apôtres fondateurs de l'Église, Paul et Pierre, commence systématiquement. Un petit aperçu. On va faire un exercice ici. Quelle est la première épître que nous trouvons dans le Nouveau Testament? Romains. À tous ceux qui sont à Rome, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la prochaine? Un Corinthien. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Un Corinthien est suivi de? Deux Corinthiens. À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, etc. Ensuite, Galates. Aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données. Ensuite, Éphèse, l'église d'Éphèse, les Éphésiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Puis, les Philippiens, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données. Après, Colosse, les Colossiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et puis, première épître aux Thessaloniciens, que la grâce et la paix vous soient données. Deuxième aux Thessaloniciens, à l'église des Thessaloniciens, que la grâce et la paix vous soient données. Et là, on passe à des individus. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ. Et il ajoute miséricorde, mais il y a grâce et paix qui sont là. Deuxième à Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Puis, Tite. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Grâce et paix de la part de Dieu le Père. Dernière, Philémon. À Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et Pierre, il écrit combien de lettres? Enfin, il y a des lettres qu'on a. Il écrit sûrement beaucoup plus, mais celles qui sont dans le Nouveau Testament. Première épître de Pierre, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, tiens, intéressant, lui aussi, il pose le titre ici. Aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, à la Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et deuxième épître de Pierre, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Il n'y en a pas une qui échappe. Toutes les lettres de Paul et toutes les lettres de Pierre commence avec cette formule, que la grâce et la paix vous soient données. Que devons-nous en penser? Quand des apôtres, fondateurs de l'Église, commencent systématiquement leurs lettres par cette formule, alors est-ce une simple formule de politesse? Oh ben oui, certes, je peux les imaginer rentrer dans n'importe quelle maison et de dire grâce et paix soient sur vous. Je peux imaginer que ça faisait partie vraiment de leur langage courant. Mais le fait que ce soit dans toutes les lettres de Paul comme de Pierre, je pense, doit attirer quand même un peu notre attention, et peut-être particulièrement au moment où nous abordons cette épître de Paul aux Galates. Eh bien, grâce. Grâce. Pour Paul, tout repose sur cette grâce. C'est venu plus tard, mais je crois que Paul aurait pleinement adhéré au slogan des réformateurs, sola gratia. Il n'y a rien d'autre qui peut nous accorder un quelconque salut, sinon la grâce. D'ailleurs, il développe, et on va y revenir dans les semaines à venir, il développe dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, il définit les grâces. Et voici un extrait. « Nous, dit-il, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » Qu'est-il en train de dire ici? C'est qu'il y a deux options. Soit je peux gagner la faveur de Dieu parce que je ne suis pas si mal. Soit je peux dire, ben voilà, j'ai des éléments en moi qui ne sont pas si mal, donc Seigneur, tu peux donner crédit à ce que je suis, à ce que je fais. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus ancré dans nos cœurs que nous le pensons. On va y revenir. Mais c'est beaucoup plus ancré dans nos cœurs que nous le pensons. Mais Paul ici est en train de dire, non, ce n'est pas ça qui va me donner quoi que ce soit. Si je peux avoir une justification quelconque, si je peux être justifié, c'est-à-dire si je peux être sauvé, si je peux être pardonné de mes péchés, si je peux être en relation avec mon Dieu, c'est certainement pas par quoi que ce soit qui vienne de moi. Mais c'est parce que je reçois de lui sa grâce, auquel je ne réponds que par la foi. D'où le slogan de la réforme, sola gratia, auquel on répond par sola fides. Seule la foi ici. Parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, et il continue, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Et la deuxième partie de ce qu'il donne ici, c'est dire, certes, je suis sauvé par grâce, certes, je suis justifié par grâce, mais également, je vis par grâce. Et le reste de ma vie est aussi dépendant de cette grâce qui vient de Dieu que je ne veux pas rejeter ici. Donc la grâce est le fondement de ce que l'on appelle donc, dans le jargon théologique la justification, c'est-à-dire le fait d'être justifié, d'être rendu juste, et c'est le salut, mais aussi la grâce est le fondement de la vie en Christ, ce que l'on appelle aussi la sanctification, c'est-à-dire comment je grandis, je m'approche de Christ jour après jour ici. Et Paul va encore un cran plus loin, mais dans l'Épître aux Romains cette fois. Eh bien, Paul parle de la grâce ainsi. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. C'est que la loi est là pour me donner de voir à quel point je peux être en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Et là, c'est un autre aspect qui me paraît important de relever ici dans la pensée de Paul ici. Comprenons bien de quoi il s'agit, là. La compréhension de cette supériorité de la grâce n'est pas ou ne se limite pas à quelque chose de quantitatif, mais il y a là plutôt quelque chose de qualitatif et de structurel. C'est-à-dire, si je peux essayer un exemple ici, je prends conscience que cette semaine, et quand je dis je prends conscience, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Allez, cette semaine, si j'ai bien tenu à compte de ma vie, chaque soir avant de me coucher, que j'essaie de me souvenir de la journée et que j'essaie de relever ce que j'ai pu commettre vis-à-vis de Dieu comme faute ou omettre, manquer, et sans parler de mes pensées, ça c'est plus dur à calculer parce qu'elles vont tellement vite, elles sont tellement rapidement en porte-à-faux, mais mettons que j'arrive à un chiffre, mettons que j'arrive avec une grande honnêteté qui fera que je manquerai quand même au moins 90% de la réalité, mais mettons que j'arrive à la fin de la semaine, je dis, ben voilà Seigneur, je te confesse les 975 péchés que j'ai commis cette semaine. Que veut dire que la grâce surabonde, ou plutôt que ce que ça ne veut pas dire, c'est que si j'arrive à lister 975, ça ne veut pas dire que la grâce est offerte à 976. Ça ne veut pas dire qu'il y a là un tout petit surplus pour dire d'être payé, c'est réglé. Je ne pense pas que ce soit de ça dont il s'agit ici. Non, il s'agit tout à fait d'autre chose. Jésus est entré dans l'histoire. Et ça, c'est un plan qui a été posé dès le commencement. Il a posé la structure des choses. Et la structure des choses, c'est que tout commence par la grâce. Un exemple. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Adam et Ève dès l'instant où ils ont rompu l'alliance? Dès l'instant où ils ont rompu l'alliance, ils se sentent découverts. Ils réalisent que le regard de Dieu est insupportable. Alors ils ont besoin de s'habiller. Et ils s'habillent de choses extrêmement éphémères. Ils trouvent des feuillages. Ça ne tient pas longtemps, les feuillages. Que fait Dieu? Dieu les couvre de peau d'animal. Je l'ai déjà dit, c'est un rappel. Hein. Mais Dieu les couvre de peau d'animal. C'est-à-dire qu'un animal va mourir et faire couler son sang pour que l'homme soit couvert de grâce et puisse retrouver une relation avec son Dieu. Dès le départ, c'est structurel. Dans la pensée biblique, dès les premières pages de la Bible, la grâce est là, elle est posée. Elle va s'accomplir en Jésus-Christ. Mais elle est posée, elle est structurelle, elle est fondamentale. Et elle est là non seulement pour être posée dès le départ, mais c'est la grâce qui précède la notion de foi, qu'on va découvrir d'autant plus en Abraham, encore plus qui précède la place que la loi va occuper pour comprendre en effet les enjeux ici. On voit que la grâce est première, elle est fondamentale, elle est structurelle, elle est là totalement présente. Et la grâce n'est pas juste une surenchère, mais elle est là parce que rien ne pourra l'ébranler, rien ne pourra la dépasser. La grâce est telle, tellement énorme, qu'elle est là et qu'elle ne bouge pas. Je vais revenir, je sais que je me répète, hein, mais ça fait longtemps, donc je le redis, puis des fois que vous l'ayez loupé, vous l'aurez comme ça. Souvenez-vous, la discussion, si on pourrait imaginer la discussion qu'il peut y avoir entre le Père et le Fils dans les cieux, alors que je viens de faillir. Alors que je viens de tomber, de succomber à la tentation. Et que je me tourne vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Ça nous arrive, j'espère, enfin, pas de tomber, mais de demander au pardon, de tourner vers le Seigneur. Quelle conversation pouvons-nous imaginer, ou plutôt, quelle conversation pour sûr, si on comprend l'Évangile, et ce que j'espère nous comprendrons de plus en plus en traversant cette épître aux Galates. Eh bien, qu'est-ce que pour sûr ne se dira pas dans le ciel? Au moment où je prie cela, au moment où je dis « Seigneur, pardonne-moi, je suis passé devant la boulangerie, j'ai craqué. Et je sais que Carole ne veut pas. » Je prends exprès un petit exemple, pas trop grave quand même. Je suis un fan des parts de flan. Hein. Donc, quand je passe devant une boulangerie qui a des bons flans parisiens, j'ai du mal à résister quand même. Donc, évidemment, c'est bon, pardon. Mais si je suis là, je prends exprès un exemple bénin, pas trop vous parler de ma vie privée. Mais que se passe-t-il? Je demande pardon. Ce que le Seigneur ne dira pas dans la conversation entre le Père et le Fils. Le Fils disant au Père, « Père, t'as vu Samuel? Il a craqué. » Ce que le Père ne dira pas, c'est de dire, « Ouais, bon, ma foi. » Passe. Parce que Dieu ne peut pas faire ça. Chaque faute, chaque péché doit être payé. Dieu ne peut pas simplement dire, ouais, bon, pas grave. Dieu ne pourra pas dire encore, ah ouais, encore une fois, mais bon, on va passer l'éponge. Ni même dire, ah, il en est à combien? Bon, ben on va mettre la petite pièce supplémentaire pour couvrir la dette. Non, ce n'est pas ça qui se dit. Au moment où le Fils dit au Père, « Père, Samuel a craqué », le Père répond, « Il y a un prix pour ça. » Et le Fils répond, « Père, j'ai payé. » Et j'ai payé abondamment. Et rien ne peut rendre la dette plus grande que ce qu'elle vaut ici. Dieu n'est pas un marchand de tapis. Dieu n'est pas en train de faire les calculs pour qu'on passe à la balance juste pile poil comme il faut. Non, ce qu'il a posé en Jésus-Christ, dès le jardin d'Éden, est d'une efficacité totale et offre un crédit absolument illimité. Et un des récits, là, encore une fois, on se répète, mais encore une fois, si c'est l'occasion de le réentendre, un des récits qui me frappe à ce sujet dans les évangiles. Vous vous souvenez quand Jésus prend ses disciples, il les met dans une barque et les emmène dans un endroit où, pour sûr, ils n'iraient jamais y passer leurs vacances. Vous savez, cette région de l'autre côté de la mer où on élève des porcs. Cette région qui est totalement hostile à un juif bien pensant. Cette région appelée les Guéranésiens. Cette région où, lorsqu'ils arrivent, bien évidemment, ils tombent sur l'être le plus immonde, le plus atroce, le plus inimaginable que nous pourrions rencontrer sur cette terre. Quand on sait les ravages que peut faire le péché dans une personne, pensons aux ravages que peut faire une possession démoniaque. Imaginons les ravages que fait une légion de démons. Cet homme était intenable. Dans les cas pastoraux de faculté de théologie, je pense que si on veut voir le cas le pire jamais imaginable, c'est celui-là. Et pourquoi Jésus les mène là? Pourquoi Jésus, en train de former ses disciples, les emmène dans cette terre la plus lointaine et la plus hostile, la plus inimaginable, le pire endroit pour implanter une église? Pourquoi Jésus les mène là? Bel et bien pour leur montrer qu'il n'y a pas de limite à la grâce. Que si la grâce peut toucher un tel homme, que si la grâce peut libérer un tel homme d'une légion de démons, que si la grâce peut faire que cet homme qui était incaptable est assis et calme, qui était nu, se trouve habillé, qui était dans une colère foudroyante, était calme et posé et commençait à avoir des discussions intelligentes. Si un tel homme peut vivre une telle transformation dans un lieu tellement éloigné, je crois que les disciples en revenant pouvaient se dire « Waouh ! » La puissance de l'Évangile et la grâce de Dieu est telle qu'il n'y a aucun lieu dans ce monde, aucune période de l'histoire de ce monde et aucune situation dans laquelle on est allé tellement loin que la grâce ne peut pas agir. Ce n'est pas un marchand de tapis, la grâce. Ce n'est pas une petite pièce en plus pour payer une dette. C'est quelque chose de structurel, fondamental et qui est inouï dans sa grandeur. Ce qui fait que quand on reçoit cette grâce et quand on la comprend, ce que Paul va essayer de faire à ces Galates qui ont perdu le sens de cette grâce, quand on comprend ces choses, comment ne pas, en la recevant, abonder et la rendre et la vivre? Cela provoque de vraies transformations. La grâce est fondamentale, elle est le début de toute chose. C'est pourquoi Paul le met au début de toutes ses lettres. C'est pourquoi Pierre, qui a bel et bien compris, Paul comme Pierre ont bel et bien compris ce que veut dire le mot grâce, parce que leur existence aurait dû les séparer de Dieu à jamais. Ces deux hommes, restaurés par la grâce de Jésus-Christ, restaurés dans leur ministère, dans leur appel, vont le vivre et vont voir l'importance, ce qui fait que ce n'est pas juste une simple salutation. Ça le devient. Un peu comme on peut dire, bonjour, c'est maigre. Souhaiter une bonne journée, c'est très maigre en comparaison. Mais quand on dit salut, je me souviens, un Américain à Aix-en-Provence qui essayait d'évangéliser les étudiants, il leur donnait beaucoup à manger, donc ça marchait bien. Et puis il faisait des petites marionnettes. C'était un peu bébête, mais je me souviens qu'un de ses grands sketchs était de dire, avec son fort accent américain, et il jouait deux marionnettes et la première disait « Salut !» et l'autre qui dit « Salut !» il dit « C'est ce que tu sais ce que ça veut dire ?» et l'autre qui dit « Bah bonjour !» il dit « Non, ça veut dire salut en Jésus-Christ !» puis il donnait tout l'évangile ici. Oui, quand on dit « Salut !» on est en train de dire quelque chose d'énorme quand on y pense. Et je ne sais pas si on réalise les salutations, mais en tout cas quand Paul ou Pierre dit « Grâce et paix », ça a du poids. Grâce est absolument énorme et fondamentale. La grâce et la paix. Alors la paix, shalom, dans l'Ancien Testament. Cette formule ici, bien sûr, héritage de l'Ancien Testament, nous pouvons y voir le souhait qu'une personne fait en entrant dans une maison ou près de quelqu'un, d'un ami, d'une maisonnée ou d'une communauté, c'est-à-dire de souhaiter une tranquillité d'esprit, une harmonie, etc. Et on pourrait dire, c'est aussi une formule de politesse. Mais je crois que dans la bouche de Paul et de la bouche de Pierre, il y a plus. Parce que dans l'Évangile, le mot paix va beaucoup plus loin. En fait, dans la perspective de l'Évangile, la paix, ce n'est pas juste de souhaiter un bien-être intérieur. La paix, ce n'est pas juste de dire, mais quand je rentre dans la maison, puisse y régner un temps paisible dans cette maison. On peut souhaiter toutes ces choses ici. Mais l'Évangile va un cran plus loin, va beaucoup plus loin. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au moment de la nativité? Lorsque Jésus vient de naître à Bethléem, les bergers reçoivent une vision toute particulière. Et qu'est-ce que fait? Quelle est cette vision venant des anges et de la multitude de l'armée céleste? Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça! Je pense que si nous aurions vu ça, nous n'aurions eu d'autre choix que de nous agenouiller et de lever les yeux vers le ciel. Et Gloria in excelsis Deo. Dans cette vision, il est dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agressent. Ce n'est pas une petite salutation pour dire soyez paisibles les enfants. Cette paix est liée à ce qui se passe. Cette paix est liée au fait que Jésus-Christ vient de naître. Jésus-Christ vient d'entrer dans l'univers, vient d'entrer dans la terre. Et ce n'est pas juste une formule pour dire « Bienvenue ». C'est un message cosmiquement glorieux, venant de Dieu lui-même, et qui parle d'une paix qui ne prend son sens qu'avec la venue du Rédempteur, qu'avec la venue du Sauveur et du Roi Messie. C'est une gigantesque page d'histoire qui s'est ouverte avec la venue du Seigneur. Et la paix dont il est question, la seule et vraie paix, sera l'effet de son œuvre au milieu de nous et en nous. La paix dont il est question ici n'est pas juste une paix qui relève de nos relations humaines. Ce n'est pas même une paix que nous pourrions tenter de mettre en place. Il y a de ça autour de nous dans ce monde. Mais la paix dont il est question est très étroitement liée à la grâce que nous avons évoquée précédemment, au salut offert en Jésus-Christ, à l'effet de l'Évangile qui apporte une transformation dans nos vies. Ce n'est donc pas juste le souhait d'une tranquillité d'esprit, ce n'est pas juste le souhait d'une paix temporaire qui serait là pour la journée ou pour même ne serait-ce que notre vie. C'est une réalité profonde qui se trouve dans l'Évangile et qui est donnée par Jésus-Christ lui-même. Un cran plus loin, souvenons-nous lorsque Jésus envoie ses disciples en stage, j'aime bien appeler ça le stage de la formation des disciples. Vous savez, quand il les envoie deux par deux et qu'ils vont d'un endroit à l'autre. C'est intéressant que c'est le moment où Jésus vient dire, tiens, de les nommer apôtres. Ils viennent de passer un cap ici où Jésus leur transmet la vision de cela où il veut les mener et leur dit, priez le maître de la moisson et hop, il les envoie. Et je ne sais pas s'ils ont eu la réponse à leur prière, mais ils étaient dans les faits tout de suite, puisqu'ils sont déjà envoyés ici. Et il les envoie afin de le représenter. Il est très intéressant dans l'évangile de Matthieu de voir que le verset qui précède, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui va, c'est Jésus qui enseigne, c'est Jésus qui guérit. Et à partir de là, relevez, le passage n'est plus Jésus, mais ce sont ceux que Jésus envoie, qu'il vient de nommer apôtres, qui vont le représenter, qui vont représenter l'Évangile, représenter le royaume de Dieu. Et voici ce que leur dit Jésus. N'allez pas vers les païens, pas pour l'instant, Matthieu 28, ils iront vers les païens, mais à ce stade, ils vont vers... N'allez pas non plus dans les villes des Samaritains, là aussi, il y aura des moments où on ira vers les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, en chemin, prêchez le royaume des cieux, donc faites ce que j'ai fait jusque-là. Allez-y, vous me représentez, prêchez le royaume des cieux, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Tout ce que Jésus faisait jusque-là, il leur transmet de le faire pour ce stage ici. Parenthèse d'ailleurs, quand le stage se termine, ils n'arrivent plus à le faire. C'est intéressant, il y a des moments où ils essayent de guérir quelqu'un, ça ne marche pas. Vous savez, il y a le récit ici. Donc c'est simplement dire, c'est intéressant de voir que Jésus leur donne, pour un temps nommé, pour un temps précis, en vue de quelque chose d'autre, leur donne de le représenter. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous en partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Leur paix n'est pas une paix qu'ils ont fabriquée. Leur paix est celle que le Seigneur Jésus leur a donnée. En tant qu'envoyés, apôtres, ils arrivent et ils disent, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. C'est qu'il y a là une réalité de cette paix qui vient du Seigneur, qui est donnée et qui a besoin d'être reçue, qui a besoin d'être prise pour soi. Il y a un gigantesque enjeu dans cette formulation de paix. Cette paix représente quelque chose d'énorme qui est appelé à être reçu. Le monde peut vivre une certaine paix. Il y a des gens autour de nous qui ne sont pas croyants, qui ont l'air de vivre une harmonie personnelle, une belle paix, ils ont l'air d'être tranquilles, mais la paix offerte en Jésus-Christ, celle qui est proposée par les apôtres, celle qui est proposée par l'Évangile, offre tout à fait autre chose. Parce que c'est une paix qui nous met dans une relation profonde avec le Créateur. Et on ne peut pas revendiquer cette paix par nos propres actions. On peut revendiquer cette paix parce qu'on l'a reçue en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ me donne d'être vu par Dieu, justifié en lui, purifié, lavé d'une eau pure, et ainsi de pouvoir être dans communion avec Dieu. C'est une paix qui me donne d'être en profonde relation avec le Créateur, une paix profonde avec le Rédempteur, une paix profonde avec l'Esprit Saint, une paix profonde alors même que les circonstances seraient défavorables. Et précisons quelque chose, on est très vite piégé par cette notion de paix. On a le langage courant pour dire « Oh, mais j'ai la paix sur cette situation ». Ça peut être juste et ça peut être trompeur. Notre paix à soi personnelle n'est pas forcément critère de la vraie paix. On peut être troublé en fait. Je connais nombre de chrétiennes et de chrétiens qui sont troublés parce qu'ils ont du mal à saisir à quel point ce don de Dieu est une réalité et leur péché reste là devant eux. Leur péché est là qui disent « Comment puis-je être en paix avec mon Créateur, avec mon Rédempteur, alors que j'ai conscience de mes fautes ?» Réponse, c'est que « Il l'a donné. » Donc tu peux t'asseoir sur cette paix. Et peut-être tes sentiments te disent le contraire, mais la réalité de l'Évangile en toi fait que tu peux t'asseoir sur cette paix et faire de la paix qui t'est donnée par le Seigneur Jésus-Christ une paix fondamentale, une paix qui pose ta vie et que rien ne peut ôter, que personne ne peut ôter. C'est à mettre en parallèle avec cette conclusion de Romains que je donne assez souvent, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça fait partie de la même dynamique ici. Cette paix nous est donnée comme Paul le rappelle ici aux Galates. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-il nous donner cette paix comme une garantie totale qu'elle est là comme la grâce, comme quelque chose que rien ne pourra ébranler parce que c'est présent ici, parce que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour que cette grâce et cette paix soient offertes, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui pouvons y faire quoi que ce soit. C'est parce qu'il s'est donné lui-même que nous pouvons l'avoir, afin de nous arracher au présent siècle et ses pères artificiels, et de nous donner de vivre sa paix dans un monde totalement tumultueux. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile que prêche Paul. C'est l'Évangile qui a été annoncé à ces Gaulois de la Galatie. C'est l'Évangile qui est annoncé aux Gaulois de Paris. C'est l'Évangile qui nous est donné. La grâce et la paix vous soient données. On a dépassé les vœux du Nouvel An, mais on peut encore, il paraît, jusqu'à fin janvier. Eh bien, c'est plus qu'une formule vite faite. C'est pas juste de dire bonne santé, tout bon, allez la paix. Non, ni Paul, ni Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ne s'adresser à quiconque sans revenir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était que la grâce et la paix soient avec vous. Je ne suis pas apôtre. Il faut soit clair là-dessus. Mais en tant que pasteur de cette communauté, en tant que pasteur de la chapelle de Nesle, dont le ministère s'appuie sur celui des apôtres, de vous dire que la grâce et la paix soient avec vous ne repose pas sur moi. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais c'est quelque chose qui m'est donné de vous dire et dont j'ai la responsabilité de vous transmettre afin que vous le saisissiez et que vous puissiez en être au bénéfice. Donc quand je vous dis la grâce et la paix vous soient données, ce n'est pas juste une formule. C'est quelque chose de profond. C'est l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui fait la différence dans nos vies. Alors ce matin, que la grâce et la paix nous soient données, vous soient données. Est-il possible que j'ai besoin de redécouvrir ça? Est-il possible ce matin que j'ai toujours pris ça comme une formule vite dite? Oh, magnifique, vite dite, mais est-ce que j'ai besoin de redécouvrir la grâce, la paix? Elle m'est donnée. Ai-je besoin de la redécouvrir? Ou même, ai-je besoin de la découvrir tout court? Seule occasion pour nous de nous tourner vers le Seigneur. Et nous aurons l'occasion, dans les semaines à venir, d'aller plus en profondeur sur ces détails-là. Mais ô combien ils sont fondamentaux. Ô combien il y a un évangile et un seul. Et ô combien cet évangile peut être vite dilué par rapport à cette notion de grâce et de paix. Prions. Ô Seigneur, si tu n'étais venu jusqu'à nous, si tu n'avais couvert notre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de cette peau de la grâce, nous ne serions même pas en mesure de te la demander. Nous ne serions même pas en mesure de savoir quoi te demander. Mais tu es venu, tu as tout accompli, tu as appelé Paul, Pierre, tu les as mandatés de poser les fondations fondamentales du fondement. Et cette fondation repose sur ta grâce et sur ta paix. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, donne-nous de voir beaucoup plus de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste un marchandage qui couvre mes fautes. C'est quelque chose de gigantesque, donné en Jésus-Christ, payé au prix cher, mais un prix qui fait que le crédit est sans limite et qu'il n'y a rien qui a été trop loin dans ma vie. Il n'y a aucune situation qui soit trop grave. Il n'y a rien qui soit de l'ordre de ton incompétence. Bien au contraire. Si Seigneur, je suis aveugle, donne-moi de voir. De voir mon péché, afin de voir ta grâce. Et de voir combien ta grâce non seulement couvre mes péchés, mais fait tellement plus. Donne-moi, Seigneur, de voir ta paix et de vivre de cette paix. De ne pas me laisser troubler par les circonstances, de ne pas me laisser troubler par mes propres pensées ou les propres élans de mon cœur, mais d'aller là où tu nous poses d'aller, de réaliser que la paix n'est pas quelque chose que je me fabrique, mais la paix repose sur l'œuvre de ta grâce, à laquelle tu m'invites de répondre par la foi. Ô Seigneur, puisse cette année qui est devant nous, puisse même ce voyage que nous allons faire dans cette épître de Galates être pour nous l'occasion de ressaisir de découvrir et d'aller tellement plus loin dans le sens profond de ta grâce et de l'Évangile. Accorde-nous, Seigneur, de grandir en beauté, en profondeur, dans ce message de l'Évangile. Nous te le prions. Et Seigneur, si ce matin, je suis troublé, si ce matin, j'ai l'impression que cette dimension de la grâce et de la paix m'est bien éloignée, donne-moi, Seigneur, de voir. Est-ce que ce trouble est justifié ou pas? Est-ce qu'en effet, j'ai raison d'être troublé et j'ai besoin de recevoir ta grâce? Ou est-ce que je l'ai reçue et simplement mes sentiments me dépassent? Que j'ai besoin d'ajuster mes pensées, de mieux comprendre la profondeur de ce que tu nous as donné? Seigneur, si tel est le cas, donne-nous d'avancer, de mieux comprendre et de saisir ce que tu nous donnes. Parce que c'est là la chose la plus belle que tu aies pu donner aux hommes et aux femmes que nous sommes. Alors Seigneur, que ta grâce et que ta paix soient sur nous le demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.